Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Et c'est toujours avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve sur Médien pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique.
Médien, Amna, l'Afrique en culture.
Et aujourd'hui, eh bien, nous aurons l'immense plaisir de recevoir le mélomane, l'artiste Majid Bakas, qui sera à l'affiche de Temps Jazz, dont il donnera le coup d'envoi le 19 septembre, accompagné de Omar Sousa. Ce n'est pas la première fois donc, qu'ils collaborent ensemble, mais c'est vrai qu'on les attend toujours de pied ferme. Sinon, nous aurons également l'immense plaisir de recevoir Ramia Belladel. Elle est fondatrice et présidente du festival consacré au court-métrage de Marrakech. Elle sera avec nous pour nous parler de cette nouvelle édition qui s'annonce très éclectique et toujours aussi prometteuse. Et nous parlerons encore une fois cinéma avec un film baptisé sobrement Dahomey de Mati Diop, dont on parle beaucoup dernièrement. Un film à la lisière du documentaire et de la fiction, film hybride après le Grand Prix Cannois remporté par Atlantique en 2019. On pouvait s'attendre à ce que Mati Diop capitalise sur le succès de son premier long métrage de fiction. Alors si Dahomey a lui aussi remporté un prix d'importance, l'Ours d'Or au dernier festival de Berlin, le projet du film prend une toute autre ampleur, une aura de fiction aux accents réalistes avec ce superbe documentaire empreint d'éléments fictionnels dont on parlera dans quelques instants. Et comme promis tout à l'heure, nous avons l'immense plaisir de recevoir un artiste, un mélomane hors pair, Majid Bakas, musicien émérite, grand maître de la fusion. Il sera à l'affiche de Temps Jazz qui ouvrira ses portes le 19 septembre. Il sera sur scène avec Omar Sousa. Et c'est vrai que ce n'est pas une première pour les deux hommes, tous deux grands passionnés de la musique sous toutes ses formes.
Ben d'abord, savoir que Omar Sousa, on se croisait beaucoup dans les grands festivals de jazz en Europe, lorsque je tournais avec le fameux pianiste allemand Joachim Kühn. J'avais un trio avec Joachim Kühn pendant 22 ans, bien 25 ans. Et Omar Sousa, c'est un fan de ce pianiste aussi. Donc, à travers Joachim Kühn, on s'est connus, on s'est croisés, on a échangé. Et il ne faut pas oublier qu'en 2019, on a rendu, moi et Omar Sousa, plus le groupe Joko, on a rendu un très bel hommage à Mahmoud Guénia. On lui a rendu un très bel hommage à Rabat dans le cadre du Festival Mawazi. Donc ce n'est pas la première fois que je joue avec Omar Sousa, mais là cette fois-ci à Temps Jazz, ça sera vraiment une création. Et là, ça fait plus qu'un mois qu'on est en train d'échanger les musiques et de se préparer pour cette belle création qui va vraiment aboutir à quelque chose de très bien.
Et je voudrais savoir également si Majid, vous êtes habitué à l'art de la fusion. Vous maîtrisez également plusieurs genres musicaux, dont le Tiagnawit, qui est votre premier amour, si j'ose dire. Et est-ce que c'est vrai que, voilà, il y a cette, je ne sais pas si c'est vrai, mais vous êtes expert en la matière, vous pouvez nous éclairer. Est-ce que c'est vrai que la musique Gnawi ne fusionne pas forcément, elle soumet l'autre musique à elle?
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'expériences qui se sont faites ainsi. Ça, c'est vrai. Se sont faites comme ça. Moi, je peux vous dire que ce n'est pas le cas pour moi. Ce n'est pas le cas parce que moi, je joue la musique des autres aussi. Quand je fais une rencontre avec un artiste de jazz ou de blues ou de musique du monde, je demande à jouer sa musique aussi. Et puis, je peux aussi proposer quelques éléments d'arrangement de ma musique. Même lorsqu'il s'agit de la musique traditionnelle guinawa, je peux composer quelques phrases ou quelques riffs à jouer, voilà, par les musiciens qui m'accompagnent ou qui font la rencontre avec moi. Pour moi, pour que la rencontre réussisse, il faut que ça soit équilibré, et il faut, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit équilibrée et qu'il faut aller vers l'autre aussi, pas aller dans un seul sens. Voilà, ça c'est mon opinion.
Bien évidemment, et voilà, vous, comme je disais, vous maîtrisiez plusieurs genres musicaux et des genres qui finalement ont la même âme, si on peut dire ça comme ça. Mais vous, votre sensibilité d'artiste et d'humain, vers quel genre vous sentez le plus à l'aise, qui vous parle le plus, ou est-ce que vous ne pouvez pas faire de choix?
Pour moi, le jazz, je me sens à l'aise quand il s'agit du jazz parce que dans le jazz, il y a une certaine liberté et liberté d'expression, il y a de l'improvisation et il y a une richesse aussi harmonique. Pas oublier, il n'y a pas que l'improvisation, il y a une richesse harmonique et il y a une rythmique ternaire comme ce qu'on trouve dans la musique gnawa aussi et dans la musique africaine en général.
Et dernièrement, vous avez sorti votre album donc Jodor, et voilà, qui a connu un certain succès, qui a été notamment applaudi par la critique musicale. Et est-ce que en ce moment vous nous préparez quelque chose? Est-ce qu'il y a un album peut-être voilà, qui est en train de voir le jour, s'imagine?
Ben certainement. Le 25 octobre, je vais jouer à Jazz Café. Jazz Café, c'est le fameux lieu à Londres où tous les jazzmen ont joué là-bas et jouent là-bas. Je vais présenter un nouvel album que j'ai enregistré avec des jeunes musiciens anglais, des jeunes musiciens talentueux, un album qui s'intitule Elwen et qu'on va présenter le 25 octobre, Inch'Allah, à Jazz Café. Aussi, le 10 novembre, je vais jouer à la Philharmonie de Berlin, Inch'Allah, et j'ai invité l'excellent guitariste de rencontre et de fusion et de musique du monde, Nguyen Li, le guitariste vietnamien, et le batteur Hamid Drake, qui était le batteur de Pharoah Sanders, d'Archichef, et même de Don Cherry. C'est un batteur hors pair, comme on dit. Et donc, ça sera un concert live à la Philharmonie de Berlin et enregistré et qui va faire l'objet d'un nouvel album avec le label allemand Act Records, Inch'Allah.
Inch'Allah, donc une très belle actualité en vue. Avant de nous quitter, par pure curiosité, pourquoi Elouane, si bien sûr vous pouvez nous en parler?
Ben, Alouane, c'est les couleurs, c'est les sept couleurs de Gnawa, c'est les sept couleurs de Goethe. Alouane, c'est les couleurs, mais là, ça parle surtout de sept couleurs de Gnawa, de la lila, de la soirée de transe.
Et on sera au rendez-vous. Merci beaucoup aussi, Majid Bartaz. Donc, à partir du 18 septembre, Tanjaz, et vous serez là avec Omar Sosa. Donc, le rendez-vous est donc le 19
Le
septembre.
19 septembre, au fameux lieu qui a abrité la Journée internationale de jazz, le théâtre, le Palais des Cultures.
Exactement. Et on sera au rendez-vous. Merci beaucoup aussi, Majid, d'avoir été avec nous.
Je vous en prie et merci pour l'invitation.
Avec grand plaisir, merci beaucoup.
مالي من دون الناس كل شي هاني وانا بيت حساس هذا حالي بين دروبتي ولا شباب نوم جاني يا ربي وتحضر بس يا ربي العالي ما بغي الدنيا ولا مال فوق ديك العلالي تم اصب راحة بال قيطرة وسادي ونغمة البلوز تداوي الحال صبر دوايا أدوام الحال من المحال دنيا يا دنيا دنيا يا دنيا دنيا يا دنيا فاين نصيب الأمان دنيا يا دنيا دنيا يا
Et après avoir parlé musique avec Majid Barkaz, dont on a écouté à l'instant à la Chia, donner un extrait eh bien, de sa musique, je vous propose tout de suite de parler cinéma avec Dahomey. Le 10 novembre 2021, 26 œuvres d'art étaient restituées à la République du Bénin, 26 trésors royaux du Dahomey. Pillé par les troupes coloniales françaises à la fin du 19e siècle. C'est ce rapatriement que documente Dahomey, le deuxième long métrage de la cinéaste franco-sénégalaise Mati Diop. Dahomey, sacré par l'Ours d'Or à la dernière Berlinale. Alors que devient une œuvre quand on lui ôte son attribut culturel, symbolique, spirituel et que l'on l'expose dans un musée qui plus est dans un lieu étranger, les statues peuvent-elles mourir et finalement un jour renaître? C'est toutes ces questions que l'on se pose en regardant Dahomey. Est-ce qu'une œuvre d'art a sa propre vie, sa propre réalité, sa propre existence? C'est une des nombreuses questions que l'on se pose quand on regarde Dahomey de Mati Diop, film hybride entre documentaire et fiction sur le processus donc, de restitution d'œuvres conservées au musée du Quai Branly à Paris et qui ont fait le retour pour Cotonou. Documentaire aussi quand Mati Diop filme un débat entre étudiants à l'université d'Abomey au Bénin. Mais fiction, quand elle nous fait entendre en voix off et langue fond, le monologue intérieur d'une des œuvres, la statue anthropomorphe du roi Gezo. Mais comment vivre le retour de ses ancêtres dans un pays qui a dû finalement se construire et composer avec cette même absence, leur absence, tandis que l'âme des œuvres se libère, le débat fait rage parmi les étudiants de l'université d'Abomey. Quelle vie, tout un questionnement, tout un hommage à son pays natal, à sa culture, à son patrimoine culturel et historique. Mati Diop donc qui nous régale avec Dahomey, un film à regarder d'urgence entre documentaire et fiction. Et cap tout de suite dans l'Afrique en culture sur la ville de Marrakech avec bientôt l'ouverture du Marrakech Short Film Festival qui revient donc pour une nouvelle édition du 27 septembre au 2 octobre dans des lieux emblématiques donc de la cité ocre tels que le palais Badi ou encore le palais Baya et le jardin Hassat Moulay Abdeslam et le musée des arts de la parure. Une nouvelle édition très prometteuse qui sera marquée encore une fois fois par des collaborations exceptionnelles, à l'instar notamment de Marrakech, capitale de la culture islamique, et Qatar, Morocco, Year of Culture 2024. Et qui de mieux pour nous en parler que la présidente et fondatrice du Marrakech Short Film Festival, Ramia Beladel, qui était avec nous.
L'idée venait que nous, les Marrakechis, parce que les gens, on est une association, et l'association qui organise le festival, on a vraiment deux passions, c'est Marrakech et le cinéma, et on voulait un petit peu offrir encore des expériences de Marrakech l'unique, des expériences de Marrakech la généreuse, et ça nous est venu, cette idée d'opter pour un festival de cinéma, de court-métrage, et surtout de cinéma de plein air pour montrer la beauté de Marrakech et aussi magnifier la magie du cinéma avec le plein air.
Et je voudrais savoir également, Ramia, c'est vrai que voilà, on est un peu, il ne reste que quelques semaines, quelques jours avant cette quatrième édition. Et si vous pouvez bien sûr nous parler, eh bien, de la programmation, mais également, eh bien, de ce qui se passe un peu autour de ce festival.
C'est toujours une joie de faire une édition du Marrakech Short Film Festival. Mais là, cette édition, elle est vraiment très spéciale parce que là, on est sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. On a intégré deux programmes culturels vraiment de renom. Le Marrakech, capitale de la culture islamique, en partenariat avec le ministère de la Culture, avec l'ISESCO et aussi la commune de Marrakech. Et le deuxième programme, c'est Maroc Culture, Year of Culture, une année de culture, où il y a un échange culturel entre le Maroc et la culture. Et nous, on intègre ce programme en montrant un focus sur les courts-métrages de Qatar et en invitant des professionnels du métier qatari et bien sûr de d'autres pays et aussi de d'autres continents.
Et ce qu'on voudrait savoir, c'est, voilà, vous êtes en première loge pour assister, eh bien, à l'émergence et à l'éclosion un peu de tous ces nouveaux cinéastes, ces jeunes cinéastes. Et sur notre continent, en Afrique, donc suivant ces années, est-ce que vous avez vu une évolution du cinéma africain, des cinéastes africains? Et voilà, quelles sont les thématiques peut-être qui reviennent le plus souvent?
On est encore jeune dans le métier, 4 ans, je ne pense pas qu'on pourrait un petit peu résumer ce qui se passe. Mais parce que ce qui est bien, c'est qu'on reçoit beaucoup de candidatures. Chaque année, on reçoit plus que 100 candidatures. Cette année, on a reçu des candidatures de 54 pays, notamment l'Afghanistan. Et c'est aussi c'est une opportunité pour nous de faire une petite étude anthropologique et sociétale pour savoir comment les jeunes d'aujourd'hui pensent. Je dirais avec mon propre opinion que la jeunesse africaine aujourd'hui, c'est plutôt elle se dirige vers forger une identité qui est plurielle et une identité qui est contextuelle à notre passé et aussi qui respecte le présent et qui s'inspire et s'inspire des tendances de futur. Mais surtout, c'est comment se positionner par rapport à toutes ces influences. Et parce que le continent, quand même, on a beaucoup d'influences externes, et comment on peut rester nous tout en étant, je dirais, sous des influences ou plutôt inspiré, pour un mot plus gentil.
Et Ramia, pour donc cette nouvelle édition, qu'est-ce qui attend le public marocain? Donc, bien sûr, il y a la programmation. Est-ce que vous pouvez nous la détailler un peu plus? On sait que le Qatar, donc, est le pays hôte. Et puis, à côté, bien sûr, il y a une compétition. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
D'accord, oui, avec grand plaisir. Alors, le festival se déroule du 27 septembre au 2 octobre. La soirée d'ouverture, ça va être au Palais Bahia, le fameux Palais Bahia. La soirée de clôture, ça va être au Palais... Le 27, ça va être au Palais Badir. Le 2 octobre, ça va être au Palais Bahia. Et les projections durant la semaine vont être au Cyberparc Moulay Abdeslam. C'est des projections de cinéma de plein air, comme j'ai dit. On a un programme de projection, on a un programme de, de table ronde et de masterclass. Cette année, on a deux nouveaux programmes parce que le festival vise à être un hub de production et un hub dans l'industrie du court-métrage. L'année dernière, on a établi un programme de soutien et de production au court-métrage. On a produit deux courts-métrages. Cette année, pour ancrer un petit peu notre volonté de vraiment établir un hub d'industrie, on va présenter au public deux nouveaux programmes qui seront un programme dédié à l'industrie et à ses représentants, c'est-à-dire on va avoir avec nous des plateformes internationales et aussi nationales qui vont présenter leur travail et aussi l'idée c'est d'avoir un lieu pour les jeunes réalisateurs de se connecter avec ces gens, de collaborer et créer des discussions avec. Le deuxième programme, c'est un programme de mentoring qu'on fait en partenariat avec l'ambassade de la Suisse. C'est mentoring et aussi le but de ce programme, c'est aussi à créer une jeune génération de critiques de cinéma. Et bien sûr, comme je vous ai dit, il va y avoir des projections tout au long de la semaine et c'est des projections de trois sélections. On a la sélection nationale avec des films marocains, on a la sélection internationale avec des films internationaux de plus que 15 pays et on a la sélection du pays à l'honneur qui est le Qatar.
Donc un beau petit programme qui nous attend à partir du 27 septembre et comme vous le disiez tout à l'heure, voilà, c'est un jeune festival mais en tout cas très prometteur. Et vous, pour l'avenir, donc en tant que présidente et fondatrice de ce festival, qu'est-ce que vous souhaitez? Comment vous l'imaginez, ce festival, en fin de compte, dans quelques années?
Je l'imagine vraiment comme Dar El Kbira. D'ailleurs, ça fait un moment que les jeunes réalisateurs nous appellent Dar El Kbira. C'est parce qu'on est vraiment en très bon contact avec les jeunes réalisateurs marocains pour faciliter des procédures et tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment de faire un festival familial où, vous savez, dans Dar El Kbira, dans la maison familiale, c'est ici, c'est là-bas où on grandit. Et j'aimerais que le festival soit le partenaire du succès de ces jeunes réalisateurs. J'aimerais que le festival soit dans ses pas de ces jeunes réalisateurs et que le Marrakech Short Film Festival restera toujours un festival qui est vraiment très proche à son public, au pays, au continent, à la culture et surtout utile et aussi agréable parce qu'on essaye de joindre l'utile et l'agréable, d'où les projections de cinéma de plein air qui magnifient vraiment la magie du cinéma. Et aussi l'utilité, c'est de mettre en place des programmes de soutien pour faire au mieux nos actions pour aider les jeunes réalisateurs et aider à la promotion de la culture et de l'industrie du court-métrage dans notre pays et aussi dans le continent.
Donc une date à retenir à partir du 27 septembre, le Marrakech Short Film Festival dont vous êtes la présidente et la fondatrice, donc Ramia Belhadel, merci mille fois d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup de cette invitation.
Merci à vous, merci, avec plaisir.
Et on arrive presque à la fin de l'Afrique en culture et avant de nous quitter, nous parlons littérature avec un roman dont on parle beaucoup en cette rentrée 2024, La Nuit. La Nuit s'ajoute à La Nuit de la Mauricienne Ananda Devi, publiée dans la collection Manu au musée des éditions Stock. Ce livre n'est pas forcément un roman, mais il a été inspiré par une nuit inoubliable, mémorable, que l'auteur a passée dans la prison lyonnaise de Montluc, devenue en fin de compte un musée où ont été incarcérés notamment Jean Moulin et plusieurs enfants avant leur déportation, mais aussi des criminels de guerre français et allemands. Le récit de Devi est une sorte de méditation profonde à la Malraux sur l'histoire, ses arcanes et ses détours. Elle le dit: je suis assise en face de la cellule où sont affichés les noms et les enfants d'Izieux. Les échos s'installent et se répondent entre moi qui écris et les photos des enfants qui me regardent. Ils passeront une nuit à Montluc, 44 enfants terrorisés. Il n'y a eu ni rachat, ni pardon en leurs dernières heures, ni des hommes, ni des dieux. La Nuit s'ajoute à La Nuit, superbe roman donc de la Mauricienne Ananda Devi qui nous régale avec cette jolie œuvre à lire d'urgence, où elle nous parle de toute la complexité de l'histoire qui semble s'être concentrée en un seul et unique point, cette prison lyonnaise qui lui parle durant toute une nuit. On arrive à la fin de l'Afrique en culture. Merci d'avoir été avec nous, merci de votre fidélité et de votre écoute. Tout de suite, on se quitte en beauté avec Fils pour YOLO. Question de finir en beauté. Merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que l'Afrique en culture, c'est à écouter toujours en avant-première sur Média Podcast. Et on se retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.